don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民南家
Kapron ki Lochering ki baat kar rahe hain.
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Antoine Dulster, mais aussi Sophie Anastasio, Xavier Martinet, Audrey Rameau, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Yanis Djoudad. On poursuit notre série consacrée à l'Europe, Europe édifice en sursis, aujourd'hui du fédéralisme aux nouvelles utopies, les voies d'une refondation politique.
L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
Dans quelle direction on va en Europe? C'est une question ouverte. L'Union européenne n'est pas dans un état satisfaisant, au contraire. Est-ce que l'avenir de l'Europe, c'est l'intégration européenne? Est-ce que c'est la coopération des peuples et des États au-delà des frontières? Ou est-ce que c'est la renationalisation? Soyons honnêtes, ça c'est la rhétorique qui gagne actuellement beaucoup de soutien électoral, partout en Europe.
Connu les voix de Robert Schuman d'abord, père fondateur de l'Union européenne, ministre français, premier président de l'Assemblée parlementaire, une époque où les peuples d'Europe n'avaient pas encore la possibilité de voter pour choisir leurs députés puisque les États désignaient eux-mêmes leurs délégués. Il faudra attendre 1979 pour que soient élus les premiers eurodéputés. Aujourd'hui, le Parlement de Strasbourg est présidé par Martin Schulz, qu'on a entendu à l'instant, l'actuel président, ayant été réélu en juillet 2014 pour un mandat de 2 ans et demi. Un président très inquiet, on l'entendait, par les crises que traverse l'Union européenne. En effet, alors que l'Europe est face à un besoin urgent de plus d'intégration, elle doit faire face à une véritable désenchantement de ces peuples qui y croient de moins en moins, qui considèrent que leurs voix n'y sont pas entendues, un sentiment sur lequel s'appuient d'ailleurs les mouvements souverainistes, nationalistes, populistes, un petit peu partout en Europe. Mais si la voix des eurosceptiques de Nigel Farage à Marine Le Pen porte autant aujourd'hui, n'est-ce pas aussi, et peut-être d'abord, parce que la voix des défenseurs de l'idéal européen est devenue inaudible? Pour mieux comprendre les ressorts de cette désaffection et tenter d'entrevoir peut-être les voies d'un renouveau du projet européen, nous avons choisi de nous intéresser ce matin en particulier au Parlement et à ses 751 députés. Élus, je le disais, au suffrage universel direct depuis 1979 par les citoyens des 28 pays membres de l'Union, ces représentants devraient, selon toute logique, participer de l'émergence d'une véritable communauté de destin en Europe. Et de fait, de nombreux débats au sein du Parlement de Strasbourg ont laissé leurs traces, et que l'on se souvienne par exemple des discussions autour du Grexit menées il y a 7 mois, qui avaient vu les représentants des nouvelles gauches européennes s'opposer aux héros de l'orthodoxie budgétaire. D'ailleurs, les murs tremblent encore de la colère de Guy Verhofstadt à l'encontre du visiteur du jour, le Premier ministre grec Alexis Tsipras. Un autre eurodéputé, Pablo Iglesias, chef de file du parti de gauche radical Podemos, avait lui pris la défense du chef du gouvernement de Syriza. Quoi qu'il en soit, ce Parlement, co-législateur dans l'Union avec le Conseil, chargé de représenter plus de 500 millions d'habitants, détient-il un pouvoir réel face aux États et aux mécaniques intergouvernementales? Comment imaginer une sortie des blocages actuels au-delà des logiques de la politique européenne, les sociétés civiles, les intellectuels partout en Europe peuvent-ils eux aussi jouer leur carte et participer à leur manière à une refondation politique en Europe? Voilà les questions qui seront les nôtres ce matin. Pour les évoquer, nous avons invité en duplex avec nous depuis Bruxelles, Vivien Pertuso. Bonjour Vivien Pertuso.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable de l'IFRI à Bruxelles et par ailleurs, vous êtes coordinateur d'un projet baptisé Building Bridges, visant à confronter les perspectives nationales sur l'Union. De quoi s'agit-il en quelques mots?
Il s'agit de voir justement un petit peu la manière dont les 28 États membres pensent l'Union européenne, ce qu'ils attendent de l'Union européenne, d'une manière aussi bien analytique que pédagogique, quelque chose d'assez unique en son genre.
Et avec également des experts qui sont des eurosceptiques. D'ailleurs, vous dites que ces eurosceptiques ont une connaissance extrêmement fine des problématiques européennes. Vous le constatez régulièrement.
Ben oui, effectivement, c'est quelque chose qui est assez inattendu, on pourrait dire, parce qu'on pourrait penser que finalement les eurosceptiques ne connaissent pas l'Union européenne, mais on se rend compte que c'est tout le contraire et que finalement il y a certaines choses qui n'ont pas été suffisamment bien expliquées, où on peut très bien débattre de l'Union européenne avec des europhiles et des europhobes ou des eurosceptiques. Et c'est quelque chose qu'on a trop peu l'habitude de faire dans l'Union européenne.
Ben voilà, on va essayer de discuter justement autour de cet avenir de l'Europe. D'abord l'actualité, Vivien Pertuso. L'accord entre Londres et Bruxelles sur la réforme de l'Union européenne demandée par David Cameron sera à l'ordre du jour du Conseil européen dans les jours qui viennent, en fin de semaine, 19 février prochain. Le Premier ministre britannique avait fait parvenir, on s'en souvient, en novembre dernier, un document dans lequel il faisait connaître un certain nombre de ses exigences au Conseil. Récemment, son président, Donald Tusk, a publié un document dans lequel il propose, il expose, disons, les propositions du Conseil, avec notamment un mécanisme dit de frein d'urgence pour que Londres puisse supprimer des aides sociales aux travailleurs intra-européens, mais aussi des garanties que la City ne pâtira pas d'un renforcement de l'euro. Votre regard, tout simplement, pour commencer, Vivien Pertuso, sur ces contre-propositions et peut-être aussi sur le mode de négociation, finalement, parce que en novembre, on avait eu connaissance des exigences de David Cameron. Cette fois, on a aussi connaissance de ces contre-propositions. Finalement, tout ça se fait dans une sorte de transparence.
On peut voir ça dans une forme de transparence, vu de Bruxelles, et pourtant Bruxelles est connue quand même pour être une ville assez transparente, tout s'est fait quand même dans une certaine confidentialité, entre quelques diplomates, quelques fonctionnaires, et c'est vrai que finalement, les propositions de part et d'autre sont sorties un petit peu sans grand débat, et en fait c'est très étonnant finalement ce qui s'est passé jusqu'à présent, parce que on a eu plusieurs vague de négociations. On a une première vague de négociations techniques qui a eu lieu entre septembre et décembre environ. Ensuite, donc là, c'était principalement au sein de la Commission européenne. Ensuite, on a eu effectivement les propositions qui ont été faites par Donald Tusk. Et parallèlement, il y avait cette négociation bilatérale qui était faite à la fois entre Donald Tusk et les États membres et David Cameron et les États membres. Et aujourd'hui, on a, depuis la publication notamment des propositions au début du mois de février, beaucoup plus de négociations multilatérales, donc entre les États membres eux-mêmes. Et c'est quelque chose qui montre à quel point finalement la question britannique, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle désormais, pose des questions, justement, soulève de véritables débats, aussi bien sur la relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, le maintien ou non du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne, mais plus largement sur les conséquences des propositions et des concessions qui pourraient être faites aux Britanniques sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Alors, sur les propositions, justement, l'une des voies étudiées concerne la mise en place d'un droit de veto, ce que les Britanniques avaient appelé un carton rouge pour les parlements nationaux contre des lois proposées par la Commission de Bruxelles. L'idée, en gros, ce serait que les États membres puissent faire voter leur parlement pour rejeter des projets de loi. Quel regard vous portez sur ce qui est un renforcement des parlements nationaux dans le processus de décision européen ?
Il y a deux choses très importantes à avoir à l'esprit. La première, c'est que finalement, le mécanisme qui serait mis en place est un mécanisme qui est la continuité, si je puis dire, de ce qui existe déjà, puisque le traité de Lisbonne avait déjà octroyé aux parlements nationaux la possibilité d'avoir un rôle beaucoup plus fort dans le processus de décision européen sur la base de la subsidiarité, c'est-à-dire sur le niveau où les décisions doivent être prises et non pas sur le contenu des actes législatifs. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le mécanisme qui est proposé, pour le moment, on verra s'il est maintenu, mais le mécanisme qui est proposé ne peut absolument pas être mis en œuvre sans changement des traités. C'est-à-dire que si jamais il y a un accord qui est trouvé cette semaine ou lors d'une prochaine réunion dans les prochaines semaines,
il faudra faire revoter tout le monde.
Il faudra avoir un changement de traité. Donc ça, c'est les deux premières choses à avoir à l'esprit. Effectivement, après plus précisément sur votre question du rôle des parlements nationaux, c'est quelque chose qu'on a vu depuis une petite dizaine d'années, puisque les parlements nationaux étaient considérés généralement comme les perdants de l'intégration européenne, car ils avaient un rôle très minime dans le processus de décision, un rôle direct, j'entends. Et donc c'est vrai qu'avec le traité de Lisbonne, on a vu que ils pouvaient jouer un rôle plus important. Alors aujourd'hui, on est dans une phase, on est presque au début, aux prémices de ce rôle renforcé, parce que finalement les parlements nationaux s'adaptent petit à petit à ces nouvelles prérogatives qu'ils ont en augmentant leur capacité en interne, leur expertise en interne, parce que finalement, il faut quand même pas l'oublier, quand on parle de documents européens, ce sont généralement des documents très techniques qui nécessitent une expertise assez particulière que les parlements nationaux n'avaient pas auparavant. Donc ils s'adaptent à ces nouveaux mécanismes. Est-ce que c'est une bonne chose ? Oui, parce que finalement, ça peut faire en sorte que le débat européen ne se limite pas à des débats qui se tiennent à Bruxelles, mais qui peuvent se tenir également au niveau national. Et c'est quelque chose, j'imagine qu'on y reviendra un peu plus tard dessus. Et en plus de cela, ça peut être une bonne chose parce que, on peut se rendre compte que l'Union européenne n'est pas une chose déconnectée de la démocratie nationale.
On y reviendra et puis on reviendra également sur ce traité de Lisbonne, sur ses conséquences en matière d'intégration politique. Mais encore un mot sur le Brexit, parce qu'il y a une chose qui est frappante autour de ces débats, c'est l'absence criante des voix du Parlement européen. Tout se joue entre Cameron, le Conseil, en la personne de Donald Tusk, la Commission, les différents États membres. D'ailleurs, on a vu effectivement David Cameron qui fait, j'allais dire, le tour des popotes, hein, pour le dire un peu vulgairement. Il est passé voir François Hollande pour le sensibiliser avant le rendez-vous de la fin de semaine. Mais le grand absent, c'est quand même le Parlement, qui visiblement n'a pas voix au chapitre dans ce dossier. Qu'est-ce que ça vous semble révéler, tout ça ?
Bah, effectivement, c'est... Le Parlement européen a un rôle, jusqu'à présent, a eu un rôle extrêmement mineur dans toutes ces négociations. Il a pris position. Alors certaines personnes du Parlement européen ont pris position, à commencer par Martin Schulz, son président, mais d'autres également ont pris position sur la question du Brexit. Mais c'est vrai que dans les négociations formelles, le Parlement européen a eu jusqu'à présent un rôle très mineur. Alors ça devrait changer, et deux éléments me laisse penser que ça devrait changer. Le premier élément, c'est le fait que Martin Schulz sera dans la salle du Conseil européen jeudi et vendredi lorsque les questions du Brexit seront abordées. Ça peut paraître assez technique, mais généralement, le président du Parlement européen ne fait pas partie des débats. Donc c'est quelque chose qui signifie que la voix du Parlement européen compte. Pourquoi est-ce qu'elle compte ? Eh bien parce que...
Pardonnez-moi, mais David Cameron n'ira pas en session plénière au Parlement.
Non, alors ça effectivement...
Ce que d'autres avaient fait, le Premier ministre grec, on va en parler dans quelques instants, en juillet dernier, on se souvient de son passage.
Non mais alors, en fait, ce qui s'est passé avec ça, c'est que je pense que David Cameron a mesuré le pour et le contre. Effectivement, d'un côté, il aurait pu y avoir un effet extrêmement bénéfique pour David Cameron vis-à-vis des députés européens d'aller en session, de faire un débat public avec les eurodéputés. De l'autre côté, il se dit que le Parlement européen a extrêmement mauvaise presse au Royaume-Uni et s'il est perçu comme faisant la cour aux eurodéputés, finalement, ça pourrait desservir sa cause vis-à-vis des partisans d'une sortie de l'Union européenne.
Et oui,
donc je pense qu'il a pesé le pour et le contre.
Si
mais après, juste pour terminer, mais David Cameron ne peut pas ignorer non plus complètement le Parlement européen parce que si accord il y a au Conseil européen, un certain nombre de textes législatifs devront être amendés et le Parlement européen aura son mot à dire dans la révision de ces textes. Et donc si le Parlement européen a l'impression d'être complètement ignoré, on pourrait envisager que certains eurodéputés, voire certains groupes parlementaires, se rebiffent et rendent la vie un peu plus difficile à David Cameron.
Si ce Parlement européen il a mauvaise presse outre-Manche, c'est peut-être parce que justement on a vu ces responsables nationaux se présenter devant ce Parlement pour défendre telle ou telle position. On se souvient, je le disais, du Premier ministre grec Alexis Tsipras qui était venu justement devant le Parlement pour défendre son projet politique. Il était tombé, souvenez-vous, sur un Guy Verhofstadt absolument furieux qui en plus lui faisait la leçon, qui lui expliquer comment faire les réformes nécessaires à son pays. Écoutez.
Mais c'est de cette façon qu'il faut procéder. Vous pouvez le faire parce que il n'y avait jamais eu un premier ministre grec qui ait eu un mandat aussi fort que le vôtre. Vous avez même un mandat double. Vous avez été élu et vous avez remporté le référendum. Vous êtes donc dans une situation unique. Vous êtes le seul dirigeant grec à être à même de mettre un terme au système existant en Grèce. Et je dois vous dire que nous aussi, nous portons une part de responsabilité. Nous devons adopter le fonds d'amortissement de la dette le plus tôt possible et il va falloir aussi agir le plus tôt possible au Conseil. 80% des Grecs veulent rester en Europe, rester dans la zone euro. À vous de jouer maintenant, montrer que vous êtes un vrai dirigeant et pas un faux prophète.
Voilà, vous montrez que vous n'êtes pas un faux prophète, mais que vous êtes un vrai dirigeant, un vrai leader, Vivien Pertuzot. La réponse de Tsipras avait été également assez vive, hein, puisque il avait reproché d'avoir passé peut-être trop de temps pour négocier avec la Troïka, plus de temps à négocier qu'à gouverner, regrettant aussi que son action en matière de réforme n'ait pas été appréciée à sa juste valeur. En réalité, Vivien Pertuzot, ses chefs d'État et de gouvernement, ils apprécient pas réellement d'avoir à répondre devant les parlementaires européens. Est-ce que il faudrait peut-être leur imposer de le faire. Ils le font, mais est-ce qu'il faudrait leur imposer de le faire?
La première chose, et ça c'est quelque chose qui est imputable à Martin Schulz, l'actuel président du Parlement européen, c'est que le Parlement européen est devenu ces trois dernières années le forum démocratique lorsque l'on souhaite parler au peuple européen, soit pour se justifier, soit pour expliquer des mesures qu'on a prises, soit pour essayer de lancer des initiatives. Là effectivement on a Alexis Tsipras qui est venu pour se justifier, ou du moins essayer de se justifier. Il y a quelques semaines on a eu la première ministre polonaise Beata Szydlo qui est venue aussi au Parlement européen pour expliquer un petit peu ce qu'elle faisait. On a eu François Hollande avec Angela Merkel aussi, qui sont venus au Parlement européen il y a 6 mois environ.
Et donc, on se souvient d'ailleurs à l'occasion de la saillie de Marine Le Pen à l'égard de François Hollande et aussi d'Angela Merkel.
Tout à fait. Et donc c'est vrai que le Parlement européen est devenu un petit peu ce forum lorsque les dirigeants nationaux souhaitent s'exprimer le plus largement possible. Eh bien aujourd'hui, le Parlement européen est devenu ce forum, ce qu'il n'était pas forcément auparavant. Donc ça c'est déjà une évolution notable. Alors est-ce que ça continuera, est-ce que ça se perpétuera après le départ de Martin Schulz? Faudra voir, parce que c'est vrai que là c'est vraiment la patte de Martin Schulz qui pèse énormément, mais ça c'est la première évolution. Est-ce qu'il faudrait l'imposer aux dirigeants nationaux? Alors là on est dans la pure utopie, parce que rien ne pourrait obliger les dirigeants nationaux, surtout les chefs d'État et de gouvernement nationaux élus démocratiquement dans leur pays, à considérer que leur légitimité pourrait venir, la légitimité de leur mandat même pourrait venir du Parlement européen. Et donc on pourrait absolument pas envisager une telle évolution, parce qu'il faudrait vraiment que le Parlement européen devienne quelque chose qu'il n'est absolument pas aujourd'hui. Alors est-ce que ça peut se passer dans les 15 prochaines années? Ça me paraît quand même relativement difficile, parce que le Parlement européen reste bon an mal an déconnecté finalement des démocraties nationales. Et c'est vrai que les dirigeants nationaux...
Mais c'est tout l'enjeu justement, c'est justement tout l'enjeu de le reconnecter.
C'est tout l'enjeu de le reconnecter, mais là ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que le Parlement européen a besoin d'être beaucoup plus présent sur les affaires nationales, et les gouvernements nationaux ont besoin d'être beaucoup plus connectés au Parlement européen, de ne pas le considérer uniquement comme un objet politique lointain qui est déconnecté des affaires nationales. Et là effectivement la part de responsabilité est double, à la fois de la part des gouvernements nationaux d'avoir ignoré le Parlement européen et plus largement les institutions européennes lorsqu'il s'agit d'affaires européennes, et là on peut répéter le sempiternel refrain du quand les choses vont mal c'est de la faute de l'Europe, et quand les choses vont bien c'est grâce à moi, qui est valable à peu près dans tous les pays européens. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le Parlement européen a tendance à considérer l'intérêt européen, mais finalement d'une manière très déconnectée de l'intérêt des États membres. Et c'est quelque chose qui, malheureusement, dans l'Union européenne que nous avons aujourd'hui, dans les prochaines années, est assez problématique, parce que finalement le lien avec le citoyen national, le citoyen européen ou national, ne se fait pas de manière naturelle, et le lien et les liens avec les autorités nationales n'est pas évident non plus, ne sont pas évidents non plus.
Oui, c'est peut-être aussi parce que, et là les responsables politiques ont une responsabilité, c'est peut-être aussi parce que les États membres envoient très souvent des eurodéputés au Parlement qui ne sont pas des responsables de premier plan au niveau national. Il y a beaucoup de pays en réalité qui envoient au Parlement ceux qui n'ont pas réussi à trouver, je caricature, je provoque un petit peu, mais qui n'ont pas réussi à trouver un poste dans le paysage politique national. Souvent c'est comme ça.
Alors c'est pas forcément le cas dans tous les États membres, mais c'est vrai que on a relativement peu d'eurodéputés qui comptent dans la vie politique nationale de leur pays. Dans à peu près tous les États membres, on peut évidemment en citer un ou deux, voire un peu plus. Alors c'est vrai que quand on a une petite délégation au Parlement européen, voire un eurodéputé qui compte, c'est mieux que lorsqu'on a une grosse délégation et qu'on en a un ou deux, évidemment. Mais c'est vrai que si on regarde un petit peu le paysage des députés européens aujourd'hui, on a souvent des responsables politiques qui ont pu déjà avoir une carrière au niveau national et qui finalement n'arrivent plus à trouver un poste au niveau national. On peut avoir des élus nationaux qui ne souhaitent pas forcément en fait avoir une carrière nationale et se mettre au niveau européen. Et après, on peut avoir certains élus qui sont encore en début de carrière, si je puis dire, et qui se font leurs premières dents au niveau européen avant d'arriver au niveau national.
D'accord, donc on a tous les cas de figure en fait.
Exactement, on a absolument tous les cas de figure.
On va retrouver à Vivien Pertuso justement Guy Verhofstadt, qui était à Bruxelles, qui est en ce moment à Bruxelles, député européen, chef du groupe Alliance des démocrates et libéraux pour l'Europe du Parlement. On va l'entendre sur la place et le rôle de ce Parlement justement dans la mécanique institutionnelle, mais aussi sur la nécessité peut-être d'aller plus avant dans l'intégration politique de l'Union. C'est un fédéraliste convaincu, on le sait. Comment faire face aux différentes crises, notamment la crise migratoire, qui favorise bien sûr la montée des extrêmes droites, des populismes, de l'euroscepticisme. Mais d'abord sur l'actualité, Guy Verhofstadt, aujourd'hui rencontre David Cameron, justement, mais pas parce qu'il est eurodéputé, mais parce qu'il est en plus chef du groupe Alliance des démocrates et libéraux pour l'Europe. Il va le rencontrer donc en vue du prochain sommet du Conseil européen, qui sera consacré bien sûr à la place de la Grande-Bretagne dans l'Union et aux concessions qui peuvent être envisagées pour éviter le scénario du Brexit. Que va-t-il dire au Premier ministre britannique? Eh bien, c'est la question à laquelle il répondait hier soir au micro d'Antoine Dulster. Guy Verhofstadt.
Tout d'abord, j'espère que la Grande-Bretagne va rester dans l'Union européenne, parce que je crois que ce serait une très mauvaise chose que la Grande-Bretagne parte de l'Union, surtout au niveau géopolitique. Pas au niveau économique, mais au niveau géopolitique. Le seul qui serait ravi, ce serait M. Poutine, qui va voir une Europe beaucoup plus faible, parce que l'Union européenne sera plus faible dans la Grande-Bretagne. Et la deuxième chose que je vais lui dire, c'est que ce n'est pas gratuit. S'il veut négocier un statut spécial pour la Grande-Bretagne, ok, je peux m'y rallier, mais au même moment, il faut renforcer l'Union européenne. Il faut donner la possibilité de changer les traités dans les années à venir pour créer une Union européenne beaucoup plus intégrée, qui est capable de trouver des solutions pour la crise des réfugiés, qui est capable de jouer un rôle au niveau géopolitique contre un Poutine qui est de plus en plus menaçant. Voilà ce que je vais lui dire.
Monsieur Cameron, c'est une question vraiment de forme, mais il ne s'adressera pas aux députés européens en séance plénière, seulement au président de groupe, dont vous-même. Est-ce que c'est une reculade? Est-ce que, selon vous, Monsieur Cameron ne souhaite pas s'adresser à la représentation de l'Europe? Il préfère s'adresser aux représentants de groupe, c'est plus commode pour lui.
Moi, j'avais demandé qu'il venait à la séance plénière. Parce que ça a été le cas avec M. Hollande, est venu à la séance plénière, Mme Merkel, M. Renzi, etc. Bon, il a choisi de ne pas le faire, c'est la responsabilité de M. Cameron. Moi, je le vois parce que j'ai négocié pour le Parlement européen dans ces négociations les derniers jours et les dernières semaines, et c'est pour ça que je le vois. Mais je vais quand même insister dans cet entretien qu'il faut une révision des traités. On peut peut-être accepter un statut spécial pour la Grande-Bretagne, mais au même moment, il faut avancer très vite avec l'intégration de l'Union européenne dans tous les autres domaines.
Un statut spécial pour la Grande-Bretagne, M. Verhofstadt. Au fond, derrière ces discussions autour du statut de la Grande-Bretagne, du Brexit, et derrière finalement l'idée d'une Union européenne un peu à la carte, est-ce que tout cela signe pas l'échec d'un projet fédéral européen, un projet fédéral que vous portez? C'est-à-dire celui d'une union politique toujours plus intégrée, politiquement justement.
C'est l'inverse, selon moi. Ce qu'on connaît aujourd'hui, ce n'est pas une union européenne, c'est l'Europe à la carte. Il y a des pays qui participent à certaines politiques, d'autres pays ne le font pas. La Grande-Bretagne n'est pas membre de l'euro, de Schengen, d'autres politiques, la Danemark la même chose. Par exemple, le brevet européen, c'est une des nouvelles politiques de l'Union européenne. Eh bien, l'Espagne et l'Italie ne participent pas, etc., etc. Pour le moment, c'est l'Europe à la carte. Et moi, j'en veux en finir avec l'Europe à la carte. En disant très clairement, vous êtes membre à part entière de l'Union européenne et alors vous participez à toutes les politiques de l'Union européenne. Et si vous ne l'êtes pas, alors vous pouvez être, par exemple, membre associé de l'Union européenne. entre parenthèses, c'était déjà la proposition des pères fondateurs dans les années 50, qui avaient prévu une possible entrée de la Grande-Bretagne dans la communauté européenne, c'était ça la dénomination dans le temps, et qui avait prévu de donner un statut spécial à la Grande-Bretagne. Et puis, 60 ans plus tard, on y est.
Alors, on y est, mais justement, comment répondre, selon vous, aujourd'hui, à cette vague d'euroscepticisme que l'on voit monter partout, le Front National en France, UKIP en Grande-Bretagne? Comment répondre à cette vague de scepticisme?
Pour ça, il faut aller de l'avant. Les gens sont terrifiés, naturellement, par tout ce qui se passe. La crise des réfugiés, le rôle très faible que joue l'Union européenne au niveau géopolitique, aussi les difficultés économiques autour de l'existence de la monnaie unique. Et donc, ils ne voient pas de réponse, ils ne voient pas d'hommes politiques ou de générations politiques qui disent à la population, il faut aller de l'avant, il faut continuer le projet européen. Et il faut surtout l'approfondir. La réalité est qu'on n'a pas assez d'Europe. Par exemple, la crise des réfugiés, c'est dû au fait qu'on n'a pas de garde-frontière européenne, par exemple. C'est une des raisons. Pourquoi il y a la crise des réfugiés? Parce qu'on n'a pas de rôle politique, géopolitique à jouer. Dans la crise syrienne, c'est la Russie qui fait ce qu'il veut dans ce pays. Pourquoi on a des difficultés économiques? Parce qu'on n'a pas de marché intérieur dans des domaines de l'avenir, par exemple le digital, les télécoms, les capitaux, les services. Et donc, mais il n'y a plus de génération politique ou d'hommes politiques aujourd'hui qui osent dire cela. Ils ont tous peur d'un nationaliste et des populistes et commencent à répéter les thèses des nationalistes et des populistes. Et on sait que l'original est toujours beaucoup plus convaincant que la copie. Et donc, les gens suivent les populistes et les nationalistes par manque de courage de la classe politique aujourd'hui.
Mais à qui imputeriez-vous ce relatif échec d'une union politique toujours plus intégrée? Est-ce qu'on n'a pas fait trop d'intergouvernemental, quand on voit aujourd'hui...
On a fait trop d'intergouvernemental les dernières années, c'est clair. Depuis des années maintenant, on préfère des méthodes intergouvernementales et qui ont naturellement une défaillance énorme. C'est qu'il faut chaque fois l'unanimité, l'accord des 28 États membres avant qu'on puisse faire quelque chose. C'est comme les États-Unis seraient gouvernés par les 50 gouverneurs des États-Unis. Est-ce que ça fonctionnerait? Naturellement pas. Ce ne serait plus Obama qui déciderait, ce seraient les 50 gouverneurs qui doivent décider à l'unanimité. C'est ça qu'il faut terminer et il faut construire le plus vite possible cette Union européenne avec beaucoup plus, avec un gouvernement, un réel gouvernement, avec aussi une union, une communauté de défense, justement pour renforcer le rôle géopolitique qu'on peut jouer dans le monde. C'est ça la voie à suivre et pas copier, je dirais, les nationalistes et les populistes du bord.
Monsieur Verhofstadt, ma dernière question sera relative aux évolutions institutionnelles souhaitables. Est-ce que vous, à titre personnel, vous seriez favorable à une transformation du rôle du Parlement européen? Est-ce que cette Chambre, après tout, qui représente plus de 500 millions d'Européens, ne devrait pas devenir le législateur unique, au lieu de partager justement cette prérogative avec le Conseil?
Non, moi je suis assez en faveur de deux chambres en fait. Une chambre, c'est le Parlement européen qui représente les citoyens, et une deuxième chambre, un Sénat, je dirais, des États membres, où ce sont les parlements nationaux qui sont représentés. C'est aussi le cas dans toutes les grandes fédérations. Vous voyez par exemple l'Allemagne, ils ont un Bundestag et un Bundesrat. Vous voyez par exemple ce qui se passe aux États-Unis. Moi je suis pour deux chambres, mais ce qu'il faut changer, et ça c'est très important, que le Parlement européen reçoit tous les pouvoirs, aussi au niveau des revenus, des recettes, des ressources de l'Union européenne. On est quand même le seul Parlement au niveau mondial qui n'a rien à dire sur les ressources de nos institutions et de notre communauté. Ça, c'est certainement une chose à faire. Et puis, créer une vraie gouvernement. On l'appelle maintenant Commission européenne. Il n'y a plus personne qui comprend qu'est-ce que fait la Commission européenne. C'est encore un mot qui date du temps communiste. Faisons de la Commission européenne une vraie gouvernement qui est responsable devant deux chambres, devant le Parlement européen, et qui est responsable devant nos peuples.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Voilà, on entendait à l'instant Guy Verhofstadt depuis Bruxelles, député européen, chef du groupe Alliance des démocrates et libéraux pour l'Europe, au micro d'Antoine Dulster. C'était hier soir à Bruxelles. Vivien Pertuzot, justement, on retourne du côté de Bruxelles avec vous. Je voudrais vous entendre peut-être sur ce qu'on entendait, sur ce que nous disait Guy Verhofstadt. Alors, pas forcément sur le Brexit dont on a pas mal parlé, mais sur les évolutions institutionnelles, sur peut-être cette hypothèse dont nous parle Guy Verhofstadt avec deux chambres, dont l'une serait le Parlement européen et puis l'autre un Sénat où au fond on aurait des représentants des parlements nationaux. Votre regard sur les propositions de Guy Verhofstadt et sur son idée de ce que devrait être, de ce que pourrait être l'Europe de demain?
Quand on écoute Guy Verhofstadt, bon, on n'est plus très surpris parce que finalement ce sont des idées qu'il défend depuis longtemps et qu'on entend assez régulièrement de la part des fédéralistes et notamment des eurodéputés fédéralistes au Parlement. L'idée des deux chambres est une idée qui peut être effectivement assez attrayante et qui pourrait ressembler à ce qu'on voit dans d'autres pays. Alors il y a plusieurs problèmes qui se posent. La première, c'est qu'effectivement, comme Guy Verhofstadt l'a très bien souligné, le Parlement européen est unique en son genre parce que c'est pas vraiment un Parlement au sens strict du terme. C'est pas le seul législateur, déjà, c'est une chose. Mais il y a quelque chose que le Parlement européen fait très peu parce qu'il n'en a jamais eu l'habitude, c'est de regarder ce qui a été fait par le passé. Le Parlement européen passe beaucoup de temps à légiférer, beaucoup moins maintenant parce qu'il y a moins d'actes législatifs, mais il passe beaucoup moins de temps à regarder la mise en œuvre des lois qui ont été faites, voir si elles sont efficaces ou pas, s'il est nécessaire de les modifier, de même de faire en sorte que les autres institutions européennes soient responsables vis-à-vis du Parlement européen, ce qu'il pourrait très bien faire. Notamment la Commission, il le fait, mais peut-être il pourrait le faire davantage avec d'autres institutions comme la Banque Centrale Européenne. Donc il y a certaines évolutions, certes juridiques, qui pourraient être envisageables, mais même, je pense, des évolutions presque philosophiques du Parlement européen. Aujourd'hui, le Parlement européen est davantage effectivement un co-législateur qui anime un débat européen avec plus ou moins de mal, et surtout qu'il le fait un petit peu dans sa bulle. Avec un esprit assez corporatiste. Et donc il faudrait quand même une très très forte évolution à l'intérieur du Parlement.
Mais est-ce que
européen.
C'est dû au Parlement réellement, Vivien Pertuzot? Est-ce que c'est pas dû justement au fait qu'il n'a pas la place qu'il devrait avoir?
Ah, c'est toujours la question de qui a pondu l'œuf, la poule ou l'œuf. Donc c'est très compliqué de savoir là, effectivement, si c'est la faute du Parlement européen ou si c'est le manque de prérogatives pour le Parlement européen. Je pense qu'il
Mais
y a
vous,
un peu
vous, ça a l'air d'être plutôt la première hypothèse.
Bah, c'est, oui et non. Le problème, c'est que après, ça dépend aussi des personnes qu'on envoie au Parlement européen. Ça dépend un petit peu du rôle qu'on souhaite donner au Parlement européen. Et c'est vrai que les États membres ne font pas grand-chose pour donner davantage de visibilité au Parlement européen. Mais c'est vrai qu'au sein du Parlement européen, il y a quand même un véritable changement de culture qui serait nécessaire pour que le Parlement européen puisse jouer le rôle que Guy Verhofstadt souhaiterait qu'il joue. Après, de fait, toutes les autres évolutions seraient beaucoup plus se paraissent assez compliquées à mettre en œuvre. L'idée d'avoir un Sénat avec les États membres ou les parlements nationaux, etc. Là, il y a d'autres mécanismes qui existent et on voit à quel point ils sont compliqués de coopération interparlementaire au niveau des parlementaires européens, des parlementaires nationaux. Donc là, effectivement, c'est juste que pour le moment, le Parlement européen a quand même beaucoup de chemin à faire en interne avant qu'on ne puisse lui donner des attributions nouvelles, parce que le risque est que si jamais, et ça ne vaut pas que pour le Parlement européen d'ailleurs, et Guy Verhofstadt l'a très très bien dit, si jamais on va vers plus d'intégration, ce qui on va dire le cheminement assez naturel de l'Union européenne,
pas pour tout le monde.
On ne peut pas pour tout le monde, mais on va dire historique. Oui, oui. Si on va vers plus d'intégration, on ne peut plus le faire sans l'aval explicite des peuples. Et c'est quelque chose qui, jusqu'à présent, a été souvent négligé. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les populistes, comme il le disait lui-même, aujourd'hui, on le vend en poupe, parce qu'ils utilisent des arguments assez simplistes, assez faciles à comprendre, et ça paraît assez difficile aujourd'hui de justifier l'Union européenne, d'avoir des arguments positifs. Et tant que, justement, il n'y a pas une adhésion beaucoup plus explicite et pas seulement implicite à l'Union européenne dans les populations nationales et les populations européennes, je vois difficilement comment on peut donner plus d'attributions justement à une institution qui paraît aujourd'hui très déconnectée de la vie des citoyens européens.
Je voudrais vous entendre, Vivien Pertuso, sur sa critique à l'égard de la Commission. Il n'y va pas de main morte, Guy Verhofstadt. Mais d'abord, on va justement écouter le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, luxembourgeois, juste après son élection par les députés européens. C'était donc le 15 juillet 2014. Écoutez-le.
Le Parlement, qui vient d'entamer son mandat de législature, est un Parlement qui est différent de ses prédécesseurs. Vous êtes le premier Parlement à élire vraiment, à élire dans tout le sens du terme, le président de la Commission. Vous l'élirez dans un nouvel esprit. Le lendemain des élections, vous avez insisté sur l'exigence qu'il y avait de tenir compte des résultats du suffrage universel. En le faisant, vous avez donné son véritable sens, sa véritable signification démocratique et politique à l'article 17, paragraphe 7 du traité de Lisbonne. Vous avez défendu le principe démocratique.
Voilà, Jean-Claude Juncker, premier président de cette commission élu dans le cadre du traité de Lisbonne, entré en vigueur en décembre 2009. Pour rappel, Juncker a donc été désigné parce qu'il était le candidat du parti arrivé en tête aux élections et puis élu ensuite par le Parlement, pas seulement approuvé comme c'était le cas avant. Cette élection justement du président, Vivien Pertuso, président de la commission, est-ce que ça a changé quelque chose et quoi? On a dit, ça lui donne une nouvelle légitimité, ça lui donne un poids politique plus conséquent. Fondamentalement, les choses ont vraiment changé, Vivien Pertuso ?
Pour le moment, pas vraiment. Pour le moment, pas vraiment, parce que le système s'est mis en place de manière assez difficile, puisqu'il y avait un bras de fer entre les États membres et les parlementaires européens. Les parlementaires européens considérant que il fallait absolument mettre en place effectivement ce principe de Spitzenkandidat, comme on l'a appelé, donc l'élection indirecte du président de la Commission européenne en fonction des résultats aux élections européennes. Les États membres, eux, pas tous, mais certains considéraient que finalement ils revenaient de leur droit de nommer ou du moins de proposer un président de la Commission européenne au Parlement européen sans forcément prendre en compte les résultats des élections européennes. La pression a fait que finalement on a vu que Jean-Claude Juncker a été proposé par le Conseil au Parlement européen. Mais tout ça s'est fait dans une atmosphère assez difficile. Et donc c'est vrai.
Et on se souvient qu'Angela Merkel, rappelons-nous quand même, hein, Angela Merkel était opposée en réalité à cette hypothèse.
Elle était au départ, elle était opposée, ensuite s'y est ralliée. Oui. Donc on a vu François Hollande était hésitant. On a vu pas mal de dirigeants nationaux qui étaient mi-figue mi-raisin sur ce nouveau mécanisme. Et donc c'est vrai que ça n'a pas forcément favorisé une campagne électorale européenne véritable, puisque Jean-Claude Juncker a dû faire à peu près le tour de tous les États membres en l'espace de un mois et demi. Enfin bon, quelque chose d'assez aberrant en réalité. Mais pas que Jean-Claude Juncker, d'ailleurs les autres candidats aussi. Donc pas le temps de se faire bien connaître, pas le temps de bien communiquer. Donc tout ça s'est fait dans la précipitation. Donc il est possible
dans la précipitation, mais ça s'est fait quand même. Et quand il prend ses fonctions, Juncker, il donne le ton. Il dit à propos de l'indépendance de la Commission qu'il voulait avoir vis-à-vis du Conseil et donc des États. Il avait dit « je ne serai pas le valet du Conseil ». Vous trouvez qu'il a tenu parole ? Vous trouvez que la Commission s'est émancipée du Conseil et des États membres ?
Là-dessus, oui, dans le sens où la Commission, en fait, la critique qui revenait souvent vis-à-vis de la Commission, des commissions Barroso notamment, c'était la proximité entre la Commission européenne et le Parlement européen. Et donc, c'était plutôt que le président de la Commission, la Commission était plutôt les valets du Parlement européen plutôt que du Conseil. Dans le cas de figure de Jean-Claude Juncker, ailleurs, c'était plus lié au contexte de ces dernières années où le Conseil européen et donc les États membres ont joué un rôle extrêmement fort dans la gestion de la crise, au détriment, dans une large mesure, du Parlement européen qui a été mis sur la touche. Et donc, et là, il ne faut pas non plus oublier que quand il s'adresse aux eurodéputés, naturellement qu'il va leur dire qu'il ne veut pas être le valet du Conseil. Mais après, c'est un équilibre toujours très compliqué à trouver, parce que le Conseil joue un rôle extrêmement important, tout autant que le Parlement européen. Donc c'est un équilibre à trouver que, pour le moment, Jean-Claude Juncker et sa commission plus généralement a réussi à trouver.
Une chose me frappe en vous entendant, Vivien Pertuso, et puis ensuite on prendra la direction de l'Espagne pour retrouver Jorge Lago qui est avec nous en direct. On va le prendre dans quelques instants. Mais à vous entendre, finalement, on parle beaucoup d'intégration politique. On dit qu'il faut aller vers plus d'intégration. On parle de fédéralisme. On pose des hypothèses avec deux chambres, comme le proposait Guy Verhofstadt, l'une qui serait le Parlement européen, l'autre qui serait le Sénat avec des représentants des parlements nationaux, etc. Donc cette critique très forte aussi à l'égard de la Commission. On a le sentiment qu'en réalité, on ne sait pas ce que c'est le fédéralisme européen. Je veux dire, il y a, semble-t-il, des fédéralismes. Chacun dans son coin se fait une idée de ce que pourrait être le fédéralisme européen de demain, mais que finalement, il n'y a pas d'idée commune entre la France, l'Allemagne, évidemment, la Grande-Bretagne, j'en parle pas. Est-ce qu'on a une idée de ce que pourrait être le fédéralisme européen. Dans ses statuts adoptés au Congrès à Marseille en décembre 2011, le Parti populaire européen s'appuie, je le cite, sur la volonté commune de ses membres de fonder une Union européenne fédérale. Ça veut donc dire que ce Parti populaire européen de droite est un parti fédéraliste. Est-ce qu'il a un projet fédéraliste au singulier clair ?
Le problème, c'est que le mot fédéralisme en français paraît un peu comme un gros mot, parce que c'est l'antithèse de la manière dont l'État français fonctionne. À l'inverse, en Allemagne, le fédéralisme est un système politique bien connu, puisque c'est la manière dont l'Allemagne est gérée. Donc en fait, ça dépend déjà ça dépend vraiment des langues, si je puis dire, et des cultures politiques des différents États membres. Et dans certains États membres, comme la France, le mot fédéralisme fait peur. On a l'impression que tout serait décidé au-dessus de nous, sans qu'on ait son mot à dire sur quoi que ce soit.
Force est de constater qu'on n'a pas réussi à fabriquer une culture commune sur ce point.
On n'a jamais réussi à le faire. Je pense que pour deux raisons principales. La première, c'est que le discours fédéraliste est resté un discours supranational et un discours qui n'intègre pas suffisamment justement les démocraties nationales. Et donc tout s'est fait comme si naturellement tout devait se faire au niveau européen puisque le niveau national était insuffisant ou incapable de régler les problèmes. Mmh. Et c'est ce discours qui crispe beaucoup les gouvernements nationaux ou même les parlementaires nationaux. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que effectivement, on n'a pas véritablement expliqué ce que pourrait être un fédéralisme au niveau européen, où on pourrait avoir effectivement une répartition des compétences entre les niveaux nationaux et les niveaux européens, et certaines compétences, et finalement c'est déjà un petit peu le cas, certaines compétences seraient exclusives au niveau européen et certaines compétences resteraient au niveau national ou autre. Et ça, c'est un travail pédagogique
qui reste à faire. Effectivement. On va prendre la direction de l'Espagne. En 2014, le parti de gauche, radical, Podemos, avait envoyé 5 députés au Parlement européen, dont Pablo Iglesias, qui lui, le 8 juillet 2015, au lendemain du référendum portant sur l'acceptation de la proposition faite par l'UE, la BCE et le FMI, qui a vu donc la victoire du non, conférant à Tsipras une légitimité pour poursuivre son action, Pablo Iglesias, lui, avait défendu la Grèce et Tsipras, justement, écoutez.
L'Europe est en train de plonger, mais ce n'est pas dû au fait que des gouvernements réagissent et que certains peuples réagissent également. Ce qui détruit l'Europe, c'est l'arrogance du gouvernement allemand, c'est cette incapacité de certains dirigeants à défendre leur peuple. Donc je lance un appel ici, dans cette Assemblée, je lance un appel aux socialistes, franchissez le pas, défendez les droits sociaux et mettez un terme à cette maudite grande coalition qui nous mène droit dans le mur. Défendez aujourd'hui le peuple grec et le gouvernement grec, c'est défendre la dignité de l'Europe. 2015, c'est l'année du changement et sous peu nous serons plus forts. Merci.
Voilà, défendez les droits sociaux, défendez le peuple grec. 2015 sera l'année du changement. On va retrouver depuis l'Espagne Jorge Lago. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes porte-parole de Podemos, vous êtes par ailleurs responsable en charge des relations internationales. On a déjà eu l'occasion d'échanger ensemble à ce micro, Jorge Lago. Merci d'être avec nous. Je vais vous poser la question très clairement, de façon un peu brutale. Mais au fond, en quoi l'arrivée de ces 5 eurodéputés espagnols de Podemos ont modifié, selon vous, la démocratie européenne? On verra sur le plan national, mais sur la démocratie européenne. Au fond, qu'est-ce qu'ils ont apporté au Parlement européen et à son fonctionnement, pour vous?
Bon, c'est une grande question, qu'est-ce qu'on a apporté par rapport à la démocratie. Je pense, on écoutait tout à l'heure les paroles de Pablo Iglesias, je pense qu'on a apporté quelque chose qui est pas si visible que ça à la démocratie en Europe, c'est montrer que les décisions qui sont prises, notamment par rapport à la Grèce, c'était pas des décisions techniques, économiques, qui étaient nécessaires d'adopter, mais c'était des décisions politiques qui a mis en place, surtout notamment l'Allemagne, mais avec l'appui du Parti Socialiste Européen et du Parti Populaire. Donc, les travaux qu'on a fait avec Syriza, qu'on a fait nous au Parlement Européen, qu'on a essayé de faire aussi dans notre pays, en parlant de ce qui s'est passé à Bruxelles et au Parlement, et c'est un travail de démocratisation, au moins, des discussions qui sont mises en place, c'est-à-dire de sortir du discours strictement technique et donc nécessaire des marchés, des lois, etc., et montrer que c'est des décisions, notamment politiques, qui sont mises en place et que c'est donc des rapports de force en Europe dont il faut parler. Et que Syriza, notamment Tsipras, quand il a négocié avec... a essayé de négocier avec la Troïka, c'était une négociation dans la faiblesse politique qui montrait qu'il y avait une absence d'appui dans les restes de forces politiques.
Donc, si je vous entends bien, finalement, pour Podemos, le Parlement européen, c'est d'abord et avant tout une vitrine, une agora, un forum pour exposer, pour diffuser ses idées. C'est d'abord et avant tout ça.
C'est pas si d'abord ça, mais en tout cas, oui, cette vitrine, étant donné que, bon, on a vu aussi que quand il faut prendre des décisions, comme celui de la négociation avec la Grèce et Tsipras, la structure démocratique, apparemment démocratique du Parlement, on la suit pas tellement, quoi. Donc, c'est la Troïka, c'est ces structures qui vont au-delà du Parlement qui décident. Donc, oui, c'est une vitrine, mais qui montre un peu la difficulté de ce que vous parlez auparavant, d'une réelle démocratie européenne, bien fédérale, bien à partir d'un parlement des représentations étatiques.
Pour que ça soit pas seulement une vitrine, vous le disiez vous-même, il faut prendre des décisions. On le sait, l'Espagne se cherche aujourd'hui toujours un gouvernement. Alors, c'est vrai qu'il y a le socialiste Pedro Sanchez qui devrait essayer de gagner l'investiture le 2 mars prochain, mais en tout cas, je rappelle aux auditeurs que les dernières élections ont fait basculer l'Espagne dans une où finalement 4 partis représentent chacun entre 15 et 30%, donc il faut trouver une coalition là-dedans, le Parti Populaire, le Parti Socialiste, et puis les deux nouveaux venus, j'allais dire, avec leur figure de proue, Albert Rivera pour Ciudadanos, et puis Pablo Iglesias pour Podemos. On voit que jusqu'ici, on ne parvient pas à fabriquer une coalition, le PP et le Parti Socialiste ne veulent pas travailler ensemble, Podemos veut bien travailler avec le Parti Socialiste, mais Ciudadanos refuse de participer avec une coalition dans laquelle il y aurait Podemos. On voit bien que la situation nationale espagnole, elle pose cette question des alliances politiques possibles. Et cette question des alliances, elle se pose d'ailleurs au-delà du paysage espagnol. Il se pose aussi au niveau européen. Je vais vous poser la question aussi brutalement. Qui sont les alliés de Podemos?
Alors, c'est qu'on voit en Espagne que d'une manière ou d'une autre, c'est un reflet de ce qui peut se passer en Europe aussi, c'est que chez nous, le Parti Socialiste doit décider une politique anti-austérité avec des alliances avec nous, avec Podemos, ou bien continuer dans une politique économique aussi des droits sociaux et dans le silence de l'austérité, donc lié au parti de droite, notamment Rivera, vous parlez des Ciudadanos, c'est des partis un peu la droite modérée espagnole, et que ce qu'on ne peut pas faire, ce que nous on dit, c'est faire le discours en même temps. On ne peut pas faire une alliance avec droite et gauche, une sorte de grosse coalition qui continue les politiques d'austérité en Espagne, mais qui sont celles qu'on a vu son fonctionnement en Europe. Donc,
est-ce que le Parti Socialiste européen peut être un partenaire au Parlement?
Par l'instant, pas du tout, mais ce qu'on voit, c'est que tandis que le socialisme européen continue avec les politiques d'austérité, il réduit sa possibilité de continuer au pouvoir des différents pays, c'est-à-dire il disparaît, pas disparaît, mais il réduit ses voies, il réduit sa capacité à continuer, et surtout ça fait réduire énormément la différence entre la social-démocratie, ce qui fait le Parti populaire européen et les différents partis de droite, libéral, européen. Donc nous, on est en train de dire, en Espagne, mais aussi au Parlement européen, il faut décider. Il faut décider des politiques de financement qui vont contre l'austérité ou rester dans une sorte de subalternité de l'austérité comme celle de socialisme espagnol, mais aussi français, italien, ou ce qui reste du socialisme à l'Italie.
Donc ce que je comprends, c'est que si changement il y a du côté des socialistes et des socialistes européens, alors peut-être cette alliance pourrait être possible. Merci beaucoup en tout cas, Jorge Lago, d'avoir été avec nous. Malheureusement, on arrive au terme de cette émission. On avait encore tant et tant de choses à dire, mais on vous réinvitera, on vous réentendra, nul doute, sur l'antenne de France Culture. En tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous. Également, un grand merci à vous, Vivien Pertuzot, de nous avoir accompagnés pour cette deuxième émission consacrée au fédéralisme, aux nouvelles utopies, à la refondation politique de l'Europe. Vivien Pertuzot, et je remercie également les techniciens qui a assuré le duplex à Bruxelles.